Le développement personnel. S'il fallait placer le produit sur une gondole de supermarché du bien-vivre, à n'en pas douter, le développement personnel serait au centre des étals. Il est temps de nous positionner clairement sur le sujet. Sous cette appellation se cachent pêle-mêle toutes les techniques imaginables afin de mieux vivre avec soi-même. Alors, peut-on considérer le yoga comme l'une d'elles? La réponse est simple. Simple et rapide. Non. Mais le pourquoi est plus complexe. En fait, au cœur du sujet se situe le soi, ce qui mérite une véritable explication. Les techniques du développement personnel proposent une sorte d'amélioration de soi-même. Or, le soi est parfait. Nous pourrions nous arrêter là et nous recentrer sur la vraie question, qui est de cheminer vers soi. Mais reprenons au début. Le terme « développement » tout d'abord, qui sous-tend l'idée d'amplification, de croissance, de déploiement, le tout lié au concept d'évolution, ce qui exprime la notion d'un changement actif afin de devenir meilleur. Le mot « personnel » nous propose quant à lui de nous focaliser sur l'action individuelle relié à ce qui nous est propre, en tant qu'individu distinct de tous les autres. Notre personne est invitée à s'enrichir d'aptitudes spécifiques, la rendant aimable à la vue des autres, qui en sont plus ou moins dépourvus, faute d'un travail agissant sur eux-mêmes. S'il fallait résumer ces quelques phrases par une image, je vous propose celle du vieux sadhu assis sur son rocher. Est-elle, à votre avis, suffisamment éloquente? Pensez-vous que cet homme incarne les principes du développement personnel? En parallèle, je vous encourage à regarder les images collectées sur Internet qui vantent les mérites de tel ou tel établissement proposant leurs services en la matière. Le nœud de ce problème, qui peut apparaître comme une simple dialectique, s'exprime à travers la recherche des vertus à acquérir. La proposition du développement des compétences laisse entendre que la personne deviendra plus intelligente ou plus puissante, ou plus savante, ou mieux, plus riche, plus rayonnante, plus heureuse, etc. Nous pouvons reprendre une à une ces aptitudes développées dans un scénario à la gloire de l'esprit positif et comprendre que l'individu livré aux entreprises mercantiles d'une société en perte de valeur se condamne à ne développer que son ego. L'affirmation démesurée de ce que l'on considère comme notre valeur individuelle propre et unique ne peut conduire que dans l'abîme. Le culte de la petite personne exprime une grande fragilité qui se conclut dans le non-amour de soi. L'image de Narcisse, dans l'approche psychanalytique, présente un être qui n'aime que lui-même. Il est désœuvré et fragile parce qu'il ne contemple qu'un reflet. Cependant, une autre analyse amène un éclairage tout à fait nouveau. Cette relecture du mythe Narcisse nous invite à considérer son refus d'aimer un être extérieur à lui-même comme un parcours initiatique. Narcisse se suffit à lui-même. Il est en quête de son soi véritable, inaltérable et sublime, au-delà de toutes les apparences. Il écoute sa voix intérieure qui l'invite à contempler son âme, se battre pour sa liberté, refuser le banal afin de préserver son intégrité. Il dédaigne les plaisirs sensoriels dans un rejet sauvage. Il repousse tout compromis qui pourrait entraver sa démarche. « Je ne fais de concession à personne », le Nulli Concedendo de Erasme, qui aimait citer les paroles du dieu Terminus, représentant le terme de la vie humaine. Comprenons que toute tentative d'augmenter notre potentiel personnel nous éloigne de la réalité ultime de l'infini à l'intérieur de chacun. Si l'étude, l'instruction, l'apprentissage, un travail régulier représentent les fondements d'une vie honnête, ils doivent se réaliser en parallèle d'une démarche qui consiste à se débarrasser du superflu. Accepter la solitude comme une force, une chance d'accomplissement. C'est là qu'interviennent les techniques proposées soit par le yoga ou autres, afin de faire connaissance avec soi. Le choix qui s'offre est simple. Toute idée d'acquisition débouchant sur une impasse, il convient de privilégier une voie de dépouillement. Cette voie peut prendre le visage d'une philosophie, d'une sagesse ou d'une religion. Démarche centrée sur la connaissance ancestrale issue de la tradition transmise. C'est là encore un point primordial. Notre société moderne, à force de défis, a augmenté sa puissance technologique, mais rien, absolument rien d'essentiel n'a été découvert sur la condition humaine. La plus grande vigilance doit être requise envers toutes les techniques non enracinées dans les textes de référence anciennes. Il serait tentant de proposer des approches ancrées dans les cultures de chacun, en fonction de son passé, de ses ancêtres. C'est une évidence dans la mesure où il est bien plus aisé de s'instruire dans le cadre défini par nos pères et mères plutôt que de s'approcher d'une culture éloignée de la nôtre. Cependant, les temps actuels nous permettent d'entrer en contact avec les détenteurs du savoir commun en toute sécurité. Il n'y a aucun problème à se diriger vers une nouvelle culture, l'apprentissage d'une nouvelle langue, la lecture de nouveaux textes. C'est une question de sensibilité. Seul, l'enracinement est incontournable, car la tradition est une. No.
Mrityurma Amritam Gamaya.